aciéries s'éteignent. Et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu. Si vous nous rejoignez, bienvenue à tous les autres. Vous êtes en compagnie de l'équipe du Canu Info du jeudi avec Laurent d'un côté.
Bonsoir.
Et donc moi-même, hein, je me présente, Delphine, et oui, voilà, la Delphine du jeudi. Soir, nous allons parler ce soir de Monsieur Macron et des projets inutiles, ça sera Laurent qui va nous parler de tout ça. On ira faire un petit tour du côté des barbares, hein, vous savez, ce sont les États qui pratiquent la peine de mort. Nous irons en Irak avec une pendaison de masse. Nous parlerons évidemment du Kurdistan ce soir. Nous reviendrons sur cette grande question que nous essayons d'avoir depuis quelques temps, le patrimoine, c'est quoi, hein, après l'arrivée de Monsieur Bern. Nous parlons d'un autre empereur plus local, mais qui est passé au national, Monsieur Colomb, qui n'aime pas bien les libertés. Ce sera Laurent qui s'attaque ce soir à nos politiques. Nous reviendrons sur les profiteurs et sur Ryanair, et puis nous aurons un petit peu d'environnement pour terminer ce Canu Info. Mais nous avions envie d'ouvrir ce Canu Info par cette journée mondiale du droit à l'avortement, ce jeudi 28 septembre. Comme vous le disaient nos amis et camarades de l'émission précédente Grain de Sable, juste avant, il y a un rassemblement Place de la Comédie entre l'Hôtel de Ville et l'Opéra. Il est toujours temps de nous abandonner, de courir à ce rassemblement. Il me semble que c'est plus important que de nous écouter. Surtout, vous avez la possibilité de nous réécouter sur Internet par la suite. Alors, ce droit à l'avortement, on a l'impression qu'aujourd'hui tout va bien et que finalement il faut se battre pour celles qui n'y ont pas accès dans d'autres pays. Mais tout ça, c'est pas si simple. Il suffit d'écouter un petit peu les organisations ici, en France, comme le planning familial par exemple, pour se rendre compte qu'en fait on a toujours des problèmes d'accès au droit à l'avortement, à l'IVG en France. Hein. Ici, on est à Lyon, donc on est une grande ville. Donc il y a encore des services, quoique. Se faire avorter en plein mois d'août, c'est pas simple. Mais dès que vous êtes un petit peu dans la campagne ou dans des villes plus petites, et ben vous avez des centres qui ont fermé ou qui n'ont jamais existé. Et donc vous n'avez pas de lieu de proximité pour avoir ce droit à l'IVG, à l'avortement. Donc ça, c'est déjà un des problèmes qu'on continuera à soulever. Et puis vous savez, il y a plein de problèmes. Hein. Maintenant en France, on a cette clause de conscience qui permettrait à des professionnels dire non. Moi, je ne pratique pas d'avortement. Je ne veux pas t'aider sur l'avortement. Je ne veux même pas en parler. Donc ça, c'est un problème parce que ça existe dans un certain nombre de pays, mais ah ça oui, existe.
C'est très rétrograde. Hein. On peut refuser de soigner un homosexuel parce que sa conscience est choquée par l'homosexualité. Enfin, c'est la porte ouverte à une discrimination sur. Alors là, sur le droit à la santé, effectivement, la clause de conscience, c'est une catastrophe totale. Hein.
Oui, sur tous les sujets. Hein. Oui. Voilà, et sur le médical et sur le droit à l'avortement, c'est un vrai problème. Ça, les associations, les organisations et les militantes et les militants continuent à le pointer du doigt. Entre 2010 et 2014, pour vous donner des chiffres, il y a eu 55 700 000 avortements à travers le monde par an. On parle de 200 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année.
En France ?
En France. Selon les chiffres de l'ONU, il y a 25 500 000 IVG qui sont non sécurisées. Ce qu'on appelle non sécurisées, c'est qu'elles sont pratiquées soit clandestinement, d'une manière d'une manière illégale, dans des conditions assez effroyables la plupart du temps. Il y a 47 000 décès par an dans le monde. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et on entend encore toujours beaucoup de bêtises que ça rendrait stérile l'avortement. Oui, ça rendrait stérile, c'est ce qu'on entend, ce n'est pas vrai. Ça provoque le cancer du sein. Là aussi, hein, y a aucune étude qui prouve la chose. On entend toujours beaucoup de bêtises et ici, en France, il y a comme ailleurs en Europe des mouvements qui se sont professionnalisés pour lutter contre ce droit à l'avortement. Donc c'est pour ça que le combat reste extrêmement important. On dit qu'il y a 40% de femmes dans le monde, hein, qui n'ont pas le droit librement à l'avortement. Donc ça reste un combat internationaliste et on doit être solidaires entre nous. Donc c'était une journée qui est importante, c'est un rassemblement qui reste important. Il y a un mouvement en Europe pour dire avortement, les femmes décident. C'était le slogan de cette journée, mais c'est une journée mondiale. Partout dans le monde, il y a des rassemblements comme celui qu'il y a aujourd'hui à Lyon. Alors on pourrait dire que, par exemple, il y a l'Irlande qui essaye d'aller vers le mieux, paraît-il. Hein,
en tant que pays d'origine, avec une forte prégnance de l'influence catholique, c'est surprenant que l'Irlande arrive à évoluer, et plus que certains pays non catholiques, enfin, qui n'ont pas cette tradition très forte. Tu vas me dire, c'est pas si idéal que ça.
Non, parce que il faut que la mère soit en danger, la future mère soit en danger pour que y ait un droit à l'IVG. Si vous êtes fait violer, s'il y a une malformation sur le fœtus, tout ça, hein, c'est pas possible. Ouais. Alors le gouvernement vient d'annoncer, le gouvernement irlandais, un référendum au printemps 2018. On n'a pas la date exacte. La grande question, ça va être c'est quoi la question exacte, parce que pour l'instant on la connaît pas et on sait très bien que sur les référendums la question compte beaucoup pour savoir si ensuite il y a oui ou non. Donc on attend un petit peu les avancées. C'est sur ce référendum, on va surveiller, mais voilà, on entend encore dire que l'embryon, ça mène au meurtre quand on tue l'embryon, on tue l'enfant à naître. Hein, c'est la position de l'Église catholique, je vous rappelle. Hein.
Voilà,
donc c'est un meurtre.
Ils essayent de faire reconnaître le droit de l'embryon, ou ils appellent ça d'ailleurs des enfants souvent, ou des bébés, alors que tant que c'est pas né, c'est pas des bébés. Mais ce que tu disais, le droit à l'avortement, il a beaucoup progressé. Il y a des pays qui autorisent l'avortement. Par contre, il est hyper limité des fois, ce droit à l'avortement. Il n'y a pas qu'Irlande, hein. Il y a d'autres pays où il y a que en cas de viol. Enfin, voilà, il n'y a pas encore des droits très simples de laisser à la femme décider oui ou non si elle veut se faire avorter ou pas, et qu'il n'y ait pas d'autres critères. Ça, c'est un peu le top du top du droit à l'avortement, et c'est celui-là qui est effectivement pas encore atteint par beaucoup de monde, par beaucoup de pays.
Alors vous savez que moi j'aime bien aller lire les commentaires sur les articles des journaux en ligne, hein, en particulier sur le Figaro.fr, je me fais un plaisir d'aller lire ces trolls fascistes de droite et d'extrême droite. Donc évidemment, quand le Figaro fait un article sur l'accès à l'avortement dans le monde, un article plutôt neutre, mais malgré tout plutôt pour le droit à l'avortement, on se retrouve avec des commentaires absolument ignobles dessous. Donc ils nous parlent de meurtre, que c'est un article de caniveau, c'est-à-dire que même le Figaro.fr arrive à évidemment se faire insulter sur ces questions de droit à l'avortement. J'ai même lu que, alors ça aussi c'est une idée assez répandue, que c'est dû à une mauvaise éducation sexuelle. On rappellera que ne pas vouloir un enfant, on peut être une femme mûre, avoir une sexualité depuis plusieurs années, comme on peut être une toute jeune fille, effectivement, qui a peut-être eu un premier rapport sexuel. Il y a des gens très différents, des femmes très différentes qui ont accès à cet IVG. Donc, parler d'éducation sexuelle, oui, moi je suis pour. Parlons d'éducation sexuelle, mais c'est les mêmes qui après vous disent qu'à l'école, il ne faut pas parler d'éducation sexuelle.
Voilà. Et puis, donc, il y a une partie de ces gens qui militent contre aussi le droit à la contraception.
Et c'est le grand parallèle, hein, finalement, de ce droit à l'IVG, à l'avortement. C'est que ben, on a un droit à la contraception et qu'il faut se battre aussi encore pour celui-ci. Et surtout, il faut en parler. Il faut parler de la sexualité et il faut continuer à le faire. Alors, on le fait dans les écoles, on le fait au collège, mais il faut continuer à pouvoir le faire. Il faut que ben, voilà, les plus jeunes, pas trop jeunes, parce qu'après, comme ils s'en moquent, ils trouvent que ça les concerne pas, ça sert à rien que ça soit trop jeune, non pas pour des histoires morales, mais pour des histoires d'intérêt. Il faut quand même intéresser le public en face. Mais voilà, il faut bien préparer quand même les jeunes à un moment à avoir un rapport sexuel. Il faut arrêter de se voiler la face et de croire qu'il y a une abstinence. Et puis moi, j'ai trouvé d'autres arguments contre l'avortement. C'est qu'en fait, et que dit le père derrière ? C'est-à-dire qu'il y a le droit de l'homme.
Ah oui,
Et que ça, c'est quand même un nouvel argument qui arrive un petit peu, je trouve, ces dernières années. C'est le droit du père, du papa. Quand même, il a le droit de donner son avis. Ben non, nous, les femmes, on va continuer à le dire, ouais. On va le répéter, c'est notre corps.
Ouais, c'est pas lui qui porte le gamin, enfin le bébé, enfin le futur bébé pendant 9 mois, l'embryon qui se développe. C'est pas lui qui fait ça. Et effectivement, une sorte de manière détournée d'attaquer le problème, portée sûrement par des masculinistes. Et autres.
Mais même simplement par des gens de l'extrême droite ou de la droite conservatrice, hein, traditionnaliste, hein, qui trouvent tous les arguments, quitte à se confondre par la suite. Voilà.
C'est une partie de ces gens-là, dans la tradition, notamment catholique française, qu'on connaît bien, notamment à Lyon, puisqu'on une partie de ces traditionnalistes cathos, la femme n'existe pas tant qu'elle n'est pas mère. Hein, la femme n'a qu'un rôle, c'est d'engendrer des enfants. Donc effectivement, là, on est dans ce discours. Voilà. Donc, on peut le dire, le combat est jamais terminé, même si la France n'est pas le pire des pays non plus. Mais les droits peuvent reculer. On l'a vu dans certains pays où ça recule. On a vu les pays comme la Pologne en Europe qui a failli reculer et justement une mobilisation des femmes a permis de limiter le recul pour l'instant.
Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver?
Voilà. Il y a, je crois, un projet au niveau de l'ONU de faire reconnaître pour toutes les femmes dans le monde ce droit à l'avortement. Donc ça c'est pas gagné non plus, mais voilà, il y a des gens qui travaillent dessus pour essayer de généraliser, comme on essaie de généraliser les droits de l'homme, et bien voilà, généraliser le droit à au moins de manière symbolique.
Mais tu as raison, j'ai trouvé des masculinistes sur les commentaires du Figaro.fr. Quelqu'un qui se fait appeler Liberté Chérie. Alors déjà, quand on lit après ses commentaires, ça je donne juste envie de vomir. En tout cas, sa liberté, j'en veux pas. Qui dit, dans cette société ultra féminisée et de plus en plus hostile à tout ce qui est masculin, les pères n'auraient donc pas le droit d'avoir un avis sur la survie ou non de leurs enfants. On parle donc d'embryons.
C'est, hein, c'est pas la survie des enfants, c'est la survie des cellules.
Mais c'est marrant parce que du coup, c'est une société ultra féminisée. Donc moi, je gagne toujours moins que les hommes à boulot égaux. Je suis toujours discriminée sur plein de choses. Je me fais toujours plus harceler. J'ai toujours des violences conjugales. Hein, c'est d'abord les femmes. Donc la société ultra féminisée. Donc là, on sent que derrière, il y a un peu de l'homophobie. Hein, c'est-à-dire que là, on s'attaque au genre, l'air de rien ou tout. Donc voilà, pour dire que les gens, ils mélangent tout, en fait, quand ils s'attaquent à l'avortement, parce que ils veulent absolument casser ce droit que nous avons acquis. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a un numéro qui est le 0800 08 11 11 et que toi qui m'écoutes, que tu as envie d'avoir des informations sur la sexualité, la contraception et l'IVG, c'est un service qui est anonyme et qui est gratuit. Je répète, le 0800 08 11 11, mais tu retrouveras tout ça sur internet. Il ne faut jamais hésiter à téléphoner pour avoir des infos plutôt que de se retrouver devant des situations compliquées et ne pas savoir quoi faire et quoi dire.
Sinon, vous cherchez l'adresse de votre planning familial le plus près de chez vous.
Voilà, mais sinon tout ça aussi c'est toujours bien, il n'y a même pas besoin de se déplacer.
Alors on va reparler politique encore avec ma petite info sur les projets inutiles et la visite du président de la République à
Lyon. S'il te plaît, c'était quand même le degré au-dessus. Quoi.
Ouais, mais il était accompagné de l'ancien maire de Lyon. Donc on va parler d'abord de l'A45. L'A45 c'est la nouvelle autoroute qui est en projet depuis moult années, qui relierait Lyon à Saint-Étienne, parce qu'il paraît que l'autoroute actuelle est une autoroute vieille. Alors c'est vrai que c'est une des plus vieilles de France, voire la plus vieille de France, et qu'il y a donc des gens qui luttent, et justement monsieur le maire de Saint-Étienne a rencontré Édouard Philippe, donc le Premier ministre, mardi, pour demander où ça en était du projet d'A45. Et là, le Premier ministre lui a dit que la décision était reportée. Alors c'est pas la première fois. On sait que le gouvernement veut limiter certains de ces projets que nous on qualifie d'inutiles et qui veut pas limiter pour des raisons d'inutilité, mais pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte un bras de construire une deuxième autoroute en parallèle de la première, hein, on le rappelle. Et donc ils essayent de bloquer le truc, et sur la 45 est pas dans les projets portés par le gouvernement, et plutôt dans les projets recalés. Voilà. Alors faut savoir quand même que il n'était pas tout seul, le maire de Saint-Étienne, il s'est fait accompagner de Laurent Wauquiez, donc le président de la région Rhône-Alpes, pour essayer de convaincre lui aussi. Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils ont prévu de rencontrer le 11 octobre prochain la ministre des transports polluants, enfin et des transports tout court, mais elle est plutôt pro-transport polluant, Elisabeth Borne. Donc voilà. Et alors je vais citer la phrase du maire de Saint-Étienne qui résume un peu tout ça, et je le trouve très très bon. Donc le maire en appelle, je cite, à tous les décideurs politiques, économiques, sociaux, mais aussi à tous les acteurs associatifs, qu'ils soient culturels, éducatifs, sportifs, au-delà de tous les clivages, pour signer le message de soutien réclamant que le gouvernement honore enfin sa parole et donc construise la 45. Eh ben non, nous on appellera tous les acteurs associatifs, qu'ils soient culturels, éducatifs, sportifs, moi aussi je peux mettre plein de mots, mais aussi tous les agriculteurs concernés par la destruction de leurs terres par la construction d'une autoroute inutile, à continuer la lutte. On rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui font ce déplacement pendulaire entre Lyon et Saint-Étienne, hein. Saint-Étienne est presque devenu une banlieue résidentielle de Lyon. Et qu'il y a moult projets alternatifs non polluants, notamment de développer le train à grande échelle, nettement plus que ce qu'est le cas aujourd'hui. Et ce serait la solution. Et bien entendu, ni M. Wauquiez, ni le maire de Saint-Té n'a envie d'en entendre parler. Mais, du coup, lors de la venue de Macron, ils ont aussi parlé d'un autre projet totalement inutile. Et là, c'est moins bien, hein, pour les militants qui luttent contre ces projets, puisque ça s'est fait mercredi soir à Lyon dans les salons de la préfecture, le truc un peu doré, sympathique. Emmanuel Macron a rencontré le président du Conseil des ministres italien, Paolo Gentiloni, et main dans la main, et peut-être plus si affinité, j'en sais pas plus. En tout cas, ils ont redit qu'ils étaient pour cette ligne à grande vitesse, Lyon-Turin. Oui, oui, ils aiment ce train rapide. Peu utile. Alors, on va pas refaire toute la démonstration, mais peu utile parce qu'il ne va transporter que des passagers, hein, alors que c'est de liaisons pour les marchandises dont on a besoin. Et deux, qu'actuellement, la ligne Lyon-Turin, elle est pas du tout pleine, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de demandes et qu'on gagne pas non plus beaucoup de temps en la rendant un peu plus rapide. Donc c'est un vrai projet inutile, il y a plein d'autres arguments, destruction de l'environnement, etc. En tout cas, malheureusement, Macron a réaffirmé son envie. Alors lui, il dit qu'il faut en plus voir plus loin, faire des choses assez différentes une fois que le projet sera fait. Alors lui, il dit, je cite Monsieur Macron, « Il nous faut adapter les mobilités contemporaines plus écologiques et plus intelligentes dont nous avons besoin. » Oui, alors sauf que du coup, ce projet-là, il est pas écolo. Hein, on rappelle la destruction de... en perçant les tunnels, hein, ça crée énormément de pollution, qu'il n'y a pas de besoin, donc on n'en a pas besoin, contrairement à ce qu'il dit. Enfin voilà. Il y a une importance essentiellement économique pour ceux qui fabriquent les lignes, hein, donc ceux qui posent les rails, ceux qui creusent les tunnels, et ça fait un gaspillage de milliards phénoménal, alors qu'il y a plein de choses à améliorer sur la ligne actuelle, sans passer par une nouvelle ligne. Donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle quand même de la semaine. Alors, du coup, on va parler un petit peu d'Emmanuel Macron, qui est venu pour ce sommet Franco-Italie. Et il y a eu une petite manifestation, un petit rassemblement, ils n'étaient pas très nombreux, devant, c'est pas nombreux, une quinzaine de personnes, hein. Donc c'est vraiment pas nombreux.
Un peu plus, je crois, une trentaine.
Ouais, peut-être une trentaine, allez.
Cinquantaine, allez, voilà. Parce qu'on va faire un peu de propagande.
Donc ils voulaient aller, bien sûr, devant la préfecture. Enfin, la préfecture, quand M. Macron vient, c'est bouclé sur 10 rues autour, hein. Vous n'avez plus de liberté de circuler, là, hein. Donc ils sont allés tout simplement devant l'ambassade, c'est pas l'ambassade, c'est le consulat, ouais. Devant le consulat d'Italie, qui est dans le 6e. Ils avaient amené des banderoles du style NOTAV, donc TAV c'est l'acronyme qui veut dire ligne à grande vitesse en italien. Ils avaient accroché une autre banderole qui disait non au projet TGV Lyon-Turin, coûteux et inutile, et puis face à Macron et aux lois du capital, grève générale. Donc ils étaient là, sympathiquement, devant l'ambassade, ça a duré quelques minutes, pas de dégradation, voilà. Et les forces de répression sont arrivées. Ils ont arrêté tout le monde, ou presque. Enfin, en tout cas, ils ont arrêté 14 personnes. Et d'abord, ils les ont contrôlés. Alors, les gens sont laissés contrôler. Et en fait, ils les ont tous emmenés, menottes, aux mains, aux poignets. Et ils les ont mis en prison, donc dans le commissariat central. Donc, privation de liberté. Et ils les ont relâchés. Et ils sont poursuivis de rien, parce qu'il n'y avait rien à retenir contre eux. Donc voilà, aujourd'hui, en France, la police peut priver de liberté des gens, sans aucune raison, simplement parce qu'ils se promènent avec une banderole. C'est quand même triste de voir à quel point la démocratie a reculé, grâce à Gérard Collomb, hein, qui essaye de détruire la démocratie. Il est aidé par d'autres politiques, bien évidemment. Mais là, ça va quand même très très loin d'arrêter 14 personnes qui avaient des banderoles.
Ouais, mais attention, c'était quand même de dangereux terroristes, puisqu'ils ont voulu l'accrocher.
J'en avais accroché.
À la façade, hein, donc attention. Là, on est quand même dans du terrorisme très important. Quoi.
Mais du coup, les conséquences de la visite de M. Macron à Lyon sont fait sentir, puisque dès mardi matin, les forces de répression ont vidé manu militari les quelques familles qui squattent ou qui survivent en face du musée des Confluences, sous l'autopont, au bout de Perrache, là, au bout de Confluences. Donc, dans des conditions qui ne sont pas très bonnes pour vivre, hein, vous imaginez. Bien. Mais là, ils sont tous fait virer. Alors, il paraît qu'ils avaient été avertis quelques jours avant par la préfecture de police. A priori, c'est la métropole de Lyon, hein, qui a demandé l'évacuation, puisqu'elle est propriétaire du terrain, du truc pourri sous l'autopont, là. Vraisemblablement, c'était quand même avant la venue de Macron, parce qu'il allait. Il y avait peut-être une chance ou une malchance qu'il aille à ce fameux musée donc des Confluences, et donc il fallait pas montrer qu'à Lyon il y a ces gens-là qui squattent ici, ces pauvres, ces immigrés, toute cette engeance que Macron refuse de voir et les méprise, comme le faisait d'ailleurs très bien Gérard Collomb, hein, qui a beaucoup expulsé tout ça. Alors surtout, c'est la troisième évacuation de ce genre d'habitat précaire, hein, le 25 août dernier, 150 demandeurs d'asile, pas mal d'Albanais avaient été expulsés, c'était vers la Part-Dieu. Le 13 septembre, un gros bidonville avait été évacué, là c'était vers Villeurbanne. Il y a une volonté de réprimer les pauvres, les migrants, ceux qui ont rien, ceux qui survivent tant bien que mal, on les réprime. Donc là, c'était a priori pour la venue de Macron. Alors bien évidemment, à la préfecture, puisque le responsable de l'opération de police a dit « La rapidité de l'expulsion n'a rien à voir avec la tenue ce mardi après-midi même du forum franco-chinois au musée des Confluences. » Alors il y avait un forum franco-chinois aussi, ni avec la venue de Macron. Bien sûr, on est prié de le croire sur parole. On sait, les forces de répression ne mentent jamais, c'est bien connu. Et puis, une autre chose aussi un peu bizarre, c'est arrivé mardi matin, tout est arrivé mardi, la veille du sommet, quand même, c'est bizarre. Pas mal d'interpellations au niveau des travailleuses du sexe qui se situent aussi, a priori, plutôt vers Confluence, hein, tout au bout de ce petit bout de terre, dans des parties un peu plus ou moins abandonnées, même si c'est réhabilité avec ce quartier un peu branché qui est devenu Confluence. Alors, les services de police et la police judiciaire de Lyon, notamment accompagnée de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, explique qu'en fait c'est une opération qui a lieu à Lyon, mais aussi dans le sud de la France, et qu'à Lyon, donc, ils ont arrêté 16 travailleuses du sexe d'origine nigériane. Bon, quand on demande des infos sur ce qui s'est passé dans le sud de la France, ils donnent rien, ils donnent que les chiffres de Lyon. Donc ça semble quand même juste être une justification un petit peu inventée. En tout cas, on n'a pas plus d'infos que ça, puisqu'ils en donnent aucune, il n'y a aucune transparence. Hein. Comment ça, on est en démocratie? Non, pas quand c'est les forces de police qui interviennent. Donc voilà, on a fait le ménage aussi du côté des travailleuses du sexe. Alors on rappelle qu'il y a un vrai trafic d'êtres humains, mais que c'est peut-être pas les travailleuses qui méritent la répression, mais plutôt celles et ceux qui...
Qui profitent du corps de ces femmes et de ces hommes.
Et là, bizarrement, on a l'impression que ça marche beaucoup moins bien, en tout cas.
Et quand je dis qu'ils profitent, c'est pas les gens qui, les clients, hein, c'est bien les macrons et les maquerelles.
Donc voilà, un petit peu de ménage. Macron est arrivé à Lyon. On a fait du ménage chez les pauvres, les indigents, les prostituées, tous ces gens-là, qu'il faut surtout pas montrer, comme s'ils n'existaient pas.
Comme l'aurait dit M. Sarkozy, un petit coup de karcher.
Exactement, c'est un peu ça. Mais Gérard Collomb est assez proche de la méthode Sarkozy.
C'est ça. Alors on va parler des barbares, hein, de ces états qui assassinent. Et j'avais quand même envie de vous parler de ce qui s'est passé en Irak. On avait beaucoup parlé de l'Arabie Saoudite l'année dernière, la saison dernière en tout cas. Mais j'avais envie de vous informer si vous ne saviez pas. Ça s'est passé dimanche 42 personnes
à 42 d'un coup
ont été pendues d'un coup. Ça s'est passé à Naziria, c'est au sud de l'Irak, hein, c'est dans une prison. 42 d'un coup, oui, c'est la prison, elle s'appelle Al-Out. Ils avaient été condamnés parce qu'ils étaient affiliés aux organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique ou Daesh. Inculpé en vertu de loi antiterroriste, avec des crimes comme enlèvement, meurtre des forces de sécurité, vol à main armée et détonation d'engins explosifs. Je cite. Alors écoute, c'est écrit comme ça dans les guillemets que j'ai eus. Détonation, c'est-à-dire qu'ils ont fait une explosion en fait. Et pas juste qu'ils en avaient en leur possession. Le truc, c'est que quand même, ça a fait réagir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et en particulier son chef, qui a estimé que quand même, ça posait un problème. Parce qu'on voyait pas bien comment les procès avaient pu avoir bien lieu pour pendre 42 personnes d'un coup. Il n'a pas été jusqu'à demander s'il y avait eu une promo sur la corde. Hein. Excusez-moi, je suis un peu d'humour noir, mais quand on assassine 42 personnes d'un coup en une seule journée, c'est quand même un truc qui marche pas bien au niveau de la justice. Le Haut Commissariat des Nations Unies estime qu'il y a quelque chose de douteux. C'est le terme qui est employé, hein, douteux quand même. C'est pas tous les jours qu'on emploie ce terme-là. Et puis, c'est surtout qu'on n'a pas trop d'informations, finalement. On ne connaît pas leur nom, les crimes exacts, les dates des procès, finalement, c'est comme un peu toujours, c'est pas très transparent, et ce qui a fait réagir un petit peu un certain nombre d'organisations comme Amnesty International, et puis donc ce Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà, juste, j'avais juste envie de dire ça. Il faut savoir que à Naziria, il y a 6000 prisonniers dans cette prison d'Al-Out, et bien il y en a 1200 qui sont condamnés à mort. Donc je pense que d'ici pas longtemps, il y en aura de retour un gros fourgon. Parce qu'il faut se débarrasser évidemment des prisons en Irak.
Voilà, du coup, ce qu'ils reprochent finalement aux terroristes, ils le font eux-mêmes.
Ah bah oui, c'est le sang pour le sang. Ouais. Oui, bah c'est toujours ça hein, finalement.
C'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà.
Voilà, c'est tout pourri.
Alors, nous allons parler un petit peu du Kurdistan. Vous avez sûrement tous et toutes entendu parler de ce fameux référendum dans la partie irakienne. Le Kurdistan n'existe pas. Les Kurdes sont présents dans trois pays essentiellement, la Syrie, la Turquie et l'Irak, et ils ont une région en Irak qui est vraiment autonome hein, depuis un certain nombre d'années maintenant, après avoir été bien massacré hein, par le gouvernement irakien. Le président de cette région, qui s'appelle Massoud Barzani, avait lancé un référendum et il s'est pris tout le monde sur la gueule, on peut le dire, jusqu'à l'ONU qui a condamné ce référendum. Bizarrement, c'est quand même super... horrible d'entendre l'ONU dire non, les peuples n'ont pas le droit à l'autodétermination. Pourtant, dans les principes de base, quand même, de l'ONU et de plein d'autres organisations internationales, il y a le droit des peuples à l'autodétermination. Vraisemblablement, pour les Kurdes, ça compte pas. Hein? J'ai pas souvenir que quand les Écossais ont fait cet équivalent-là, l'ONU ait fait un truc contre les Écossais. Hein? Bizarre.
Ils allaient se fâcher avec moins de monde, si tu veux. Ouais. Parce que là, il y a moyen.
Donc. Il y a eu quand même une cabale, on peut appeler ça comme ça, contre ce référendum. Alors, il a eu lieu lundi. Les résultats sont tombés hier en fin d'après-midi, donc on vous les donne. Donc les résultats sont forcément
importants pour le oui.
Donc 92,73% avec une grosse participation. Bon, il n'y a pas eu d'observateurs de la communauté internationale. Donc on ne sait pas si ces chiffres sont fiables. Ce qu'on sait quand même par les enquêtes, les gens qui sont les journalistes notamment qui sont allés, les militants qui en viennent, c'est qu'il y a une vraie volonté d'être indépendant de la part des Kurdes irakiens. Hein. Et il y a une vraie volonté de la part de l'ensemble des Kurdes d'avoir un pays. Hein. Donc ça, c'est difficile de le renier. Hein. Ça fait des centaines d'années, mais ça fait très longtemps quand même qu'ils se font massacrer par tout le monde. Hein. Même s'ils n'ont pas été sympathiques non plus eux-mêmes avec les autres, hein. C'est le cas des Kurdes, notamment avec les Arméniens au début du XXe siècle. Il n'y a aucune raison de ne pas les autoriser à avoir leur propre État. Bien sûr, ça déstabiliserait soi-disant la région, qui est vraiment une région stable, qu'il ne faut pas déstabiliser. Sauf qu'en fait, ils ont déjà quand même une quasi-indépendance. Ils sont autonomes, très autonomes. Alors, il y a des enjeux, et c'est pour ça que le gouvernement irakien a réagi. Alors là, la tension est vraiment montée hein, depuis lundi, puisqu'il y a eu une intervention de Bagdad, d'empêcher les avions de décoller de l'aéroport d'Erbil, donc la ville, la capitale, on va dire, du Kurdistan, en demandant notamment aux avions, aux Turcs de plus atterrir là-bas, etc. Donc il y a des vrais enjeux et des vrais moyens de pression qui sont mis en œuvre. Et Barzani a lâché un petit peu du lest en acceptant de discuter avec des observateurs, d'ouvrir la discussion. Il y a des enjeux de pétrole, hein, c'est ça qui bloque aussi un petit peu la situation. Alors il y a aussi quand même un truc qui est pas terrible, c'est que Barzani, c'est tout sauf un mec respectable. Il est démocrate, quand ça l'arrange, hein, et quand ça l'arrange pas, il est plus démocrate. Il faut savoir que il a été élu à un moment, mais là en ce moment il est plus élu. Hein. Son mandat s'est terminé depuis au moins 2 ans. Il est toujours là. Donc c'est un mec qui est affairiste. Il y a des chances quand même que le système qui se mette en place, si jamais il devient indépendant, ça ressemble à tout sauf à une démocratie. Et pourtant, il y a des exemples de mouvements démocratiques chez les Kurdes. On rappelle ce qui est en train de se passer dans la province du Kurdistan syrien, au Rojava, où là, il y a un vrai mouvement populaire, un vrai mouvement autogestionnaire qui marche vraiment bien. Eux, ils ont tout à perdre de l'indépendance façon Barzani. Ils sont pour, bien évidemment, que les Kurdes aient enfin le droit à l'autodétermination et enfin arrêtent de se faire massacrer par tous. Mais enfin, ils ont à perdre quand même de la manière dont Barzani envisage l'indépendance et la création d'un Kurdistan. Donc voilà, la situation est ambiguë. C'est pas logique que tout le monde s'attaque à ce référendum parce qu'ils ont le droit à l'autodétermination. Il est malheureusement pas porté par quelqu'un qui est vraiment respectable. Donc c'est un petit peu triste. On a le cul entre deux chaises. Mais grosso modo, ils ont le droit de faire des référendums et ils ont jamais eu de pays. Ils ont été massacrés par tous et toutes. Ils sont haïs par les Arabes irakiens. C'est logique qu'ils veuillent se séparer des Irakiens arabes, on va dire entre guillemets, qui les ont massacrés, hein, notamment sous Saddam Hussein. Ça se comprend quand même un petit peu.
Ouais, bon, pour appuyer ce que tu disais, j'aurais donné 2 chiffres. C'est la participation de 72%.
Oui.
C'est quand même pas si mal.
Ouais, mais
c'est
bon,
pas
c'est...
génial.
Elle n'est pas contrôlée.
Pas si mal. Elle n'est pas contrôlée. Par contre, la commission électorale nous donne un autre chiffre que je trouve intéressant, parce que ça montre quand même la force de ce droit à décider. C'est qu'il y avait 4 600 000 inscrits. On peut jouer peut-être que la commission électorale, elle nous mente, mais ça fait quand même beaucoup de personnes.
Bon, puis,
et ça concerne beaucoup, beaucoup de gens.
Les gens ont fait la fête. Enfin, il y avait un enjeu. C'est un enjeu symbolique et un enjeu fort pour des gens qui subissent le joug de l'Irak et d'autres pays depuis des années.
Alors on n'en a pas parlé, hein, de la Catalogne dans ce Canu Info. Regarde nous un petit peu ce qui se passe là-bas avec interrogation de savoir si ce référendum va pouvoir se tenir. On est quand même assez surpris de voir l'État espagnol aller récupérer les tracts, rentrer dans les usines pour chercher les urnes,
faire
des
fouilles, de
arrêter des gens. C'est quand même assez incroyable d'en arriver là pour un référendum quand même. Hein, que derrière, c'est pas parce que le référendum a lieu que l'indépendance elle a lieu dans la même journée et dans l'heure qui suit. Mais c'est voilà, on suit ça. Je sais pas si on arrivera à en parler la semaine prochaine, on verra bien.
Quand on aura le résultat, voilà. S'il a lieu, il est quand même porté notamment par des nationalistes, donc l'extrême droite. Hein, il faut,
en faut partie,
pas,
ouais.
pas se leurrer, même s'il y a des partis plus à gauche qui portent l'indépendance. C'est quand même un truc.
Mais le droit décidé par soi-même ne doit pas être décidé parce que t'es de droite ou de gauche. Ça doit exister. Mais, et là, quand même, l'État espagnol tape très très fort.
Mais alors du coup, le gouvernement catalan, les maires catalans qui sont pour l'indépendance, ils peuvent remercier Madrid,
hein,
puisque là, ils disent. Regardez, c'est un gouvernement presque fasciste. Ils disent franquiste parce que ils poursuivent, je sais pas combien de centaines de maires en justice parce que ils veulent organiser le référendum. Il y a une telle répression que du coup, les nationalistes catalans, ils ont l'air d'être dans leur droit quelque part. Alors que c'est quand même, ils portent des idées qui sont pas forcément très défendables.
Et que le débat doit encore avoir lieu très certainement.
Que la majorité de la population est pas forcément pour.
Et le référendum aurait pu être un moyen aussi de se rendre compte de ça, même si on sait que les gens vont pas forcément à ce référendum, mais ça aurait donné quand même une idée justement au niveau des chiffres. On y reviendra certainement la semaine prochaine. On va reparler sur cette idée, le patrimoine c'est quoi, en s'intéressant à un musée des affiches de la propagande à Shanghai. Ce Canu Info a traversé le monde. Pour aller jusqu'à Shanghai voir ce petit musée. Petit musée qu'il n'est pas facile de trouver puisqu'il est dans une zone résidentielle de Shanghai, dans un immeuble, une tour, et en plus de ça, c'est à la cave.
Ouais, c'est dans le sous-sol. Ouais.
C'est au sous-sol, c'est au moins un. Donc nous avons été voir ce musée des affiches de propagande, qui est un lieu qui est visité hein, par les Occidentaux.
Oui, il y avait beaucoup de touristes.
Il y a peu de Chinois et de Chinoises qui se rendent dans ce lieu, et c'est bien dommage. Nous, on trouve. Alors évidemment, on s'attendait à trouver un petit peu des maoïstes, le cœur sur la main, la larme à l'œil, en train de se dire oh, qu'est-ce que c'est beau toutes ces affiches de propagande. Alors de quoi
est-ce que c'est essentiellement sur la période communiste.
Alors c'est sur la période.
Enfin, la période communiste qui est pas terminée, mais. La grande
en tout
époque.
Cas, c'est, on va déjà expliquer, c'est un musée qui n'est pas un musée d'État. C'est en fait un lieu créé par un collectionneur, par un homme qui a décidé un jour qui s'appelle Yang Peiming, de recueillir ses affiches de propagande au moment où Deng Xiaoping a commencé à les interdire. C'est-à-dire Deng Xiaoping a décidé que les affiches de propagande c'était fini, alors ouais. que c'était toute une histoire de la Chine. Et Deng Xiaoping a commencé, lui et évidemment ses sbires, à les faire disparaître. Et cet homme, de manière tout à fait personnelle, a commencé à archiver ses affiches et a créé une collection absolument incroyable hein, du début de la révolution avec les maoïstes jusqu'aux années 90 et a commencé au début à accumuler, a ouvert ce lieu dans les années 2000 d'abord avec une petite pièce et puis en 2012 le musée a obtenu un agrément officiel hein, de la part des autorités chinoises, donc c'est pas un lieu du tout clandestin hein, c'est un lieu que tout un chacun peut aller visiter mais que très peu de Chinois et de Chinoises font en fait, hein, très clairement. C'est pas un lieu qui est très grand, il faut se rendre compte que vous êtes quand même dans une cave.
C'est une sorte d'appart, il y a eu, je sais pas, 6-7 pièces.
C'est une voilà. cave, ouais, enfin, il ouais. y a 4 pièces, hein, je crois, si je me souviens bien, c'est quand même assez petit, ouais. avec des recoins. Les affiches sont tout simplement mises au mur, il hein, y a pas, c'est pas un musée, il hein, y a rien qui a été
y a
mis en valeur.
Explications.
Et il y a des explications, dont en français, c'est pour ça qu'on s'attendait à voir les maoïstes, parce que je pense qu'il y a un certain nombre qui ont dû y aller. Des nostalgiques qui ont dû aller soutenir et donc traduire le chinois pour expliquer. Et donc il y a en anglais et en français. Les explications en français sont sur du papier plus vieilli que celles en anglaise. Donc on sent qu'il y a un changement quand même au niveau des visiteurs. Alors, c'est intéressant quand même d'avoir une exposition privée parce qu'on se demande du coup à quoi ça sert d'avoir ce patrimoine. On vous avait raconté à quoi ça sert de garder, de conserver ces statues de Lénine en Ukraine. Est-ce que ça vaut le coup? Il y en avait toutes sur les places publiques. On vous avait raconté ça suite à notre visite aux rencontres de la photographie à Arles, suite à une exposition. Et on avait cette question, est-ce qu'il faut les garder ou pas? Et là, donc là, il y a cette grande question, est-ce qu'il faut garder ou pas ces affiches qui ont été créées par centaines, par milliers au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, mais aussi au niveau local, c'est-à-dire que les régions, au niveau les autorités locales ont aussi décidé de créer des affiches sur des thématiques précises à côté de celles des grandes thématiques d'État. Et puis il y a des tas de gens qui ont créé aussi ces affiches parce que ils avaient envie de bah, finalement de créer quelque chose d'artistique. Alors ce qui est intéressant, c'est à la fois de suivre une évolution du contenu propagande pur et puis aussi l'évolution artistique de ces affiches. Parce que si tu te souviens bien, Laurent, les toutes premières affiches étaient très stylisées. Il y avait beaucoup de détails. On retrouvait aussi du contenu avec des dragons, c'est-à-dire une iconographie très chinoise. Et puis peu à peu arrive évidemment ce visage indétrônable, celui de Mao,
bah oui.
qui arrive dans toutes ces affiches. Et puis on a tout de suite aussi ce visage souriant. Le peuple chinois était heureux sous Mao, ouais. Même après. Et donc, on a toujours ces visages de Chinois et de Chinoises au champ, à l'usine, qui sourient. Le peuple chinois souriait tout le temps, il faut le savoir, parce que le maoïsme, c'était quand même vachement bien. Et puis, on a ensuite de ce surréalisme, on va vers le style très soviétique, à la nord-coréenne. Hein, vous voyez, avec des visages très carrés. On a un changement de style qui apparaît, et puis le contenu apparaît aussi, c'est-à-dire qu'on a au début bah, la campagne. Il fallait expliquer qu'on mangeait, que le pays était autonome, que le pays n'avait pas faim, que les Chinois et les Chinoises n'avaient pas faim. Donc il y avait les gens qui étaient envoyés au champ, je me rappelle aussi de force, hein, donc il fallait dire que c'était vachement bien. Et puis après on voit arriver l'apparition de l'usine. Et puis de la grande technologie, hein, plus tard, jusqu'aux années 90, les avions.
Ouais, alors du coup, il y a pas mal d'affiches de propagande sur la science. Ça, c'est un truc de fou, parce ouais. que du coup, la propagande, elle n'est pas politique, ils ne défendent pas le communisme, ils défendent la science. Il faut aller dans la science, il faut comprendre la planète, il faut... Moi, ces affiches, je les trouve géniales, parce qu'aujourd'hui, personne ne fait la propagande de la science. Il y a encore des gens qui vont se battre pour dire que la Terre est plate, quoi. Et effectivement, là, tu dis, ah, mais à un moment, ils ont fait des affiches de propagande pour dire que c'était important d'être rationaliste, quoi. j'ai pas souvenir à l'époque soviétique ça a dû se faire aussi, j'ai jamais vu ça, mais là j'étais assez étonné et assez agréablement surpris de ça,
quoi. Il me semble, hein, il y avait cette affiche, par exemple,
avec Einstein
qui est très chouette. Et puis on voit aussi alors des choses qui nous touchent pas trop, hein, sur évidemment la guerre, les forces maoïstes chinoises, il y a beaucoup évidemment de soldats avec l'étoile rouge, le fusil à la main, et la fleur de l'autre côté. Et puis on a aussi des affiches qui nous ont beaucoup plus touchés, parce que c'est plus notre côté, c'est la solidarité internationale entre les peuples, la lutte contre le racisme par exemple, avec des affiches où on a des Chinois, les Noirs, les Créoles, tous et tout ensemble et contre le racisme et contre le fascisme.
Et surtout à l'époque, dans les années 60, contre le colonialisme.
Et l'impérialisme américain.
Voilà. Et donc il y a des affiches en français. D'ailleurs, que c'est pas traduit. Les affiches, elles ont été faites en français parce que la France était un pays colonial. C'était avant la décolonisation. Et il y avait effectivement un mouvement de solidarité internationale. Et il y a ces affiches qui traduisent un peu ce mouvement de solidarité internationale de la part des cocos, des communistes, pour soutenir les peuples et les inciter à se décoloniser.
Voilà, contre l'impérialisme américain. Alors ça, dès le départ, hein, on trouve la propagande contre les États-Unis d'Amérique, avec des très belles affiches au niveau de la caricature. Et puis ensuite, on a la solidarité avec les Noirs américains contre le racisme aux États-Unis d'Amérique. Donc là, voilà, cette exposition est très intéressante. Elle est faite d'une ordre chronologique, ce qui paraît de bien voir l'évolution, hein, aussi des thématiques et des styles artistiques sur ces affiches. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on aimerait qu'il y ait plus de Chinois et de Chinoises qui se retournent vers ces affiches. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si vieux. Eh bien si, parce qu'en fait, finalement, vous voyez des gens dans la rue en Chine qui sont des jeunes gens et qui ont des t-shirts avec Mao dessus. Comme nous, en France, on peut avoir des jeunes gens avec le Che ou des t-shirts maoïstes, parce qu'on se rend pas bien compte comment ça a été sale, comment ça a été...
Oui, il a quand même fait mourir des gens, quoi.
Voilà. Non, mais on voit des jeunes gens avec ça et on sent que c'est un petit côté branchouille, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, que c'est mode, hein, c'est un petit côté vintage. Donc en fait, ça serait bien que finalement les Chinois et les Chinoises s'approprient ce patrimoine et qu'il n'y ait pas que les Occidentaux qui viennent visiter ce lieu, et que donc l'équipe arrive à l'ouvrir davantage pour que y ait un retour sur ça. Simplement, effectivement, quand Deng Xiaoping a voulu détruire tout ça, c'était pas pour rien, c'était détruire une histoire, détruire un passé, une mémoire.
Il voulait moderniser entre guillemets le pays.
Et oui, et donc il fallait bien évacuer tout ça, parce que ça faisait un petit peu ringard, et puis que ça montrait aussi la Chine dans ce qu'elle était vraiment. Mais ça pose la question aujourd'hui de la Chine et de son patrimoine d'une manière générale. On vous a raconté plusieurs fois ici qu'avec les JO, la Chine avait détruit ses vieux quartiers, en particulier à Pékin, elle avait détruit ses hutongs, ou alors elle essaye de les rénover, mais elle rénove surtout les façades. Comme ça, l'étranger ne voit finalement que des jolies choses sans savoir ce qui se passe derrière. Parce qu'après, il faut se le dire, hein, c'est du bidonville dans une partie des hutongs. Sauf qu'au lieu de rénover correctement ces vieux quartiers, soit on les détruit et puis on met du neuf partout, soit on fait juste la façade, hein, c'est... du washing, je sais pas comment il faut le dire, patrimoine. Et puis il y a la Chine qui découvre aussi aujourd'hui son patrimoine bouddhiste par exemple, ou ses cités interdites. Donc elle le fait parce qu'il y a la vision de l'étranger, et que donc il faut faire joli et beau et propre pour les étrangers. Mais c'est aujourd'hui les Chinois qui voyagent dans leur propre pays, hein, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui ils ont obtenu le droit de pouvoir voyager, ce qui a été longtemps interdit.
Et ils ont des vacances.
Et
qui leur permet de voyager en interne beaucoup.
Et donc du coup, y a une nouvelle découverte aussi des habitants de choses qu'ils n'avaient jamais l'habitude de voir, d'aller dans des musées, de redécouvrir finalement un patrimoine qui leur est propre. Malheureusement, les autorités chinoises ont pour l'instant beaucoup l'habitude de quand même de faire les choses pour faire une façade de modernité et pour se rappeler que ça a été la grandeur de la Chine, c'est-à-dire que tout le monde utilise finalement le patrimoine et l'histoire. Pareil, partout dans le monde, c'est pour monter une soi-disant grandeur et une supériorité par rapport aux autres, et c'est ce que fait la Chine, les autorités chinoises aujourd'hui. Voilà, donc on sait que c'est loin, Shanghai, mais il y a un site internet que je vais pas vous citer, parce que je l'ai pas sous les yeux aussi, ça s'appelle shanghaipropagandaart.com. Il y a plein d'affiches sur le site, il faut vraiment fouiller, c'est magnifique, et vous irez voir tout ça.
C'est ce genre de musée, il faut y aller en connaissant l'histoire, hein, parce que parce qu'il faut pas être... faut comprendre ce qu'elles veulent dire, ces affiches. C'est quand même des affiches de propagande. Il y a pas mal de choses fausses dedans.
Mais c'est aussi important de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe là-bas, d'avoir cette mémoire-là et de pouvoir le transmettre.
Puis du coup, il y a un vrai style, hein, dans les affiches, hein, une vraie volonté artistique. Hein,
ouais, tout à fait.
Voilà. Alors,
voilà.
On revient à un autre ministre de l'Intérieur, celui qui essaye de détruire la démocratie, avec ce qui s'est passé mardi chez les députés, donc à l'Assemblée, sur les lois, la transcription là, de l'état d'urgence dans des lois régulières, on va dire. C'est le projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui est revenu donc à l'Assemblée nationale, il a rajouté une petite mesure, le père Collomb et ceux qui ont fondé la loi, qui ont écrit le projet de loi, c'est l'obligation de fournir les identifiants électroniques à certaines personnes, enfin de certaines personnes, aux forces de contrôle de la population. L'idée, c'est qu'une fois que tu es suspecté de quelque chose, on te demande toutes les infos qui concernent tous tes comptes, parce que forcément on prend pas son nom et son prénom toutes les fois qu'on se logue quelque part, et ils veulent tout récupérer. Alors, a priori, dans ce qui est prévu, c'est normalement des personnes qui sont suspectées. Alors, le terme exact, c'est à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Alors ça peut concerner tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes militant écolo, vous pouvez rentrer dedans. Par contre, normalement, il y a aussi un complément, c'est-à-dire que cette personne doit être en relation, je cite, de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Donc ça limite un petit peu cette mesure liberticide. Mais bon, grosso modo, c'est une attaque à la liberté de chacun d'avoir une vie un peu personnelle. Donc il y a voilà, la personne qui est suspectée, qui donnerait pas tous ses identifiants, il risque quoi ? Il risque, juste pour ne pas avoir donné les identifiants, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est pas mal quand même. Alors, il faut savoir que ça avait été mis dans le projet de loi, les sénateurs l'avaient enlevé, et c'est revenu, et Gérard Collomb l'a fait remettre. Donc, comme c'est l'Assemblée, on rappelle que le Sénat sert à rien, et que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, on en est là. Alors, un amendement a été déposé par les députés de la gauche démocrate et républicaine. L'idée, c'était de supprimer justement cette déclaration au motif, je cite ce qui est dans l'amendement, l'amendement, elle porte une atteinte forte aux libertés constitutionnelles, respect de la vie privée, secret des correspondances et droit de la défense. Donc ils ont tout un argumentaire pour expliquer en quoi ça respecte pas, notamment le code de la sécurité intérieure, plein de choses. Donc là, l'amendement a été discuté, et à la fin, il a été mis de côté, hein, bien évidemment, et la loi est passée. Donc aujourd'hui, depuis mardi, les députés ont voté l'obligation pour les personnes soupçonnées de terrorisme ou de faire peur à l'État, de déclarer tous les identifiants électroniques aux forces de répression, c'est-à-dire la police, la justice, etc. Donc voilà, c'est un beau recul des libertés fondamentales. C'est porté, bien sûr, par Gérard Collomb, qui s'est félicité, qui avait émis un avis défavorable sur cet amendement. On connaît M. Collomb, nous, depuis tellement longtemps qu'on sait très bien qu'il est pas progressiste et qu'il est plutôt liberticide. Il l'a démontré une fois plus avec cette loi, donc qui est en cours de validation. Cette loi qui va faire passer les pires mesures de l'état d'urgence dans la loi courante et commune concernant toutes les Françaises et les Françaises.
Alors, on s'y attendait un petit peu, Bon. Bien malheureusement. Je vais revenir sur Ryanair, dont j'ai un petit peu parlé rapidement la semaine dernière. Vous savez, c'est cette compagnie dite irlandaise, à bas coût, comme on dit, qui s'enfonce dans les problèmes en étant face à des clients mécontents suite à l'annulation d'un certain nombre de vols qui a laissé des gens coincés sur leur lieu de vacances, par exemple. Et puis, mercredi, on en a pris un peu plus, puisqu'on a appris que Ryanair allait devoir supprimer de nouveaux vols entre novembre et mars prochain. Alors il faut savoir que entre septembre et octobre, c'est déjà 2100 vols qui sont annulés, qui sont déjà en cours, soit annulés, soit en cours d'être annulés. Et là, en fait, d'ici à mars, entre novembre et mars, ça va concerner 18 000 vols. C'est quand même assez impressionnant, il faut le savoir. Ça va toucher 400 000 clients qui ont déjà réservé leur billet. Donc, c'est pas une toute petite affaire, quand même, pour Ryanair. Alors, après avoir menti, c'est ce que je vous avais raconté la semaine dernière, dit que c'était à cause des intempéries, des grévistes français et tout un tas d'autres choses. On a donc appris que c'était suite à une pénurie de pilotes. Ce qu'on sait exactement aujourd'hui, oui, tu peux rigoler, c'est qu'en fait, c'est lié à un problème de congé obligatoire. C'est-à-dire que Ryanair, n'ayant pas pris en compte les congés obligatoires de son personnel, a attendu jusqu'au dernier moment pour faire ses plannings. Et évidemment, bah, il y a un moment, la loi rattrape un petit peu Ryanair. Et donc, bah, il y a des pilotes qui doivent prendre leur congé.
On rappelle que Ryanair aimerait qu'il n'y ait aucun droit pour les salariés, donc pas de vacances, et comme ça, ça leur simplifierait la vie.
Hein. Oui, alors Ryanair essaye de profiter du droit irlandais pour l'ensemble de ses salariés, mais il y a 10 jours, 15 jours, il y a des salariés qui, en Belgique, ont gagné pour se faire reconnaître ailleurs qu'en Irlande. Je n'entre pas là dans le détail, mais enfin voilà, Ryanair se fait un petit peu attaquer de tous les côtés, et leur situation ne s'améliore pas non plus de ce côté-là. Alors Ryanair a proposé une prime aux pilotes et aux copilotes pour que tout le monde retourne travailler.
Et arrête ses vacances.
Oui, Ryanair a proposé de rogner donc sur 10 jours de congé. Quand même, donc Ryanair a proposé 12 000 euros aux commandants de bord, 6 000 euros pour les copilotes pour ne pas prendre les congés, pour aller donc bosser et faire voler les avions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont refusé, donc c'est le merdier pour la compagnie. Mais en fait, il y a un moment, il y a de la grogne en interne, hein, au niveau du personnel qui en a marre, qui réclame des choses et qui n'obtient rien, qui justement voudrait être traité sur le droit local. Par exemple, en Belgique, il faut savoir que les gens, leur terminal, pour parler un petit peu simplement, c'était... La
Belgique. Hangar.
Non, mais c'était Bruxelles, c'était pas l'Irlande. Donc, c'est pour ça que la justice leur a reconnu le droit de faire reconnaître leurs droits sur le sol belge avec le code du travail belge et non pas avec,
le code du travail
code irlandais. Voilà. Donc, il y a de la grogne. Donc, ils ont refusé ces braves commandants de bord et ces braves copilotes. C'est quand même beaucoup, hein, 12 000 euros, excuse-moi. Il y en a, c'est ce qu'ils gagnent en une année, quoi.
Ouais, mais enfin, eux, ils sont mieux payés que nous.
Ah, bah, ça, c'est clair, bien évidemment. Donc, Ryanair se retrouve à devoir annuler ses vols pour 400 000 clients, quand même, hein, c'est pas rien. Alors, le chef, monsieur Michael O'Leary, qui n'est pas vraiment apprécié, il faut le dire en interne et même en externe, a expliqué que les clients lésés auraient droit à un bon d'achat de 40 euros pour un trajet, 80 euros pour un aller-retour, pour un vol de leur choix. Sauf qu'a priori, ça ne satisfait pas les clients et les clientes, hein, qui ont pour certains et certaines déboursé beaucoup d'argent pour prendre un autre vol. Et en fait, pourquoi Ryanair avait essayé d'expliquer que c'était la faute à quelqu'un d'autre? C'est qu'en fait, les remboursements, les indemnisations pour Ryanair n'étaient pas les mêmes selon si c'était la faute à l'ouragan ou si c'était la faute à Ryanair et donc aux pilotes. Hein. Voilà pour le dire comme ça. Ça me fait marrer, excusez-moi. Alors, il faut savoir que derrière, il y a l'autorité britannique de l'aviation civile qui s'en mêle puisque cette autorité a lancé hier une procédure contre Ryanair en estimant qu'elle avait induit en erreur les passagers en leur fournissant des informations inexactes sur leurs droits, ce qui semble assez avéré. Et en plus de ça, on a Madame Bulk, ou Bulk, en tout cas elle s'appelle Violetta de son prénom, qui est la commissaire européenne chargée des transports, qui s'en est mêlée aussi et qui demande à Ryanair de respecter le droit des passagers, c'est-à-dire de donner le pognon à ses clients, le pognon qui est réclamé par ses clients, puisque Ryanair a tout fait pour décourager les passagers, et ça aussi, ça a été prouvé. Alors, Michael O'Leary avait expliqué que tout ça, ça allait coûter 25 millions d'euros à Ryanair, 20 millions d'euros de compensation, 5 millions de recettes en moins, sauf qu'aujourd'hui, les experts pensent qu'on est plutôt sur du 50 millions. Bon, les bénéfices, hein, 2017-2018, ils sont toujours de 1,4 milliard.
Hein, ouais, ça va.
Donc ça va. Mais au niveau de l'image, quand même, face à la concurrence, c'est pas terrible. Et je vous rappelle que quand même, Ryanair avait voulu racheter Alitalia. Alitalia, c'est déjà pas terrible. Je pense que ben, finalement, c'est plutôt bien qu'ils aient pas pu racheter.
Alors, on va terminer par une rubrique environnement et quelques petites infos. La première concerne le gouvernement qui a décidé d'arrêter la prime au vélo électrique. Aujourd'hui, hein, si vous achetez un vélo électrique, l'État vous rembourse 200 euros. Un vélo électrique, ça vaut entre 1500 et 2000 ou 4000 euros. Je sais pas comment ça vaut, mais voilà. C'est le prix moyen, ça doit être 1500 ou 2000. Donc, l'État donnait 200 euros. Donc, c'était l'idée de faire développer le vélo électrique en remplacement, bien évidemment, du transport automobile, dit polluant, hein, puisque le vélo électrique ne pollue pas, au moins à l'utilisation. Après, ça dépend comment les gens chargent leur vélo. Et ben, Gérard Darmanin, le ministre des Comptes Publics, a décidé de supprimer, point final, cette prime. Donc, ils estiment que ça sert à rien. En fait, il dit, non mais attendez, avant, quand on le faisait pas, c'était les collectivités locales qui le faisaient. Bon, on va arrêter de le faire, et puis ça va être les collectivités locales qui vont le refaire. Alors comme ils suppriment beaucoup d'argent aux collectivités locales, je suis pas sûr que ça existe à nouveau chez les collectivités locales. Mais voilà, en tout cas, il va à l'encontre de ce qu'ils nous font croire en permanence à travers le discours assez mensonger de Nicolas Hulot, qui veut défendre l'écologie, etc. Non, ils en ont rien à faire. C'est cette petite prime qui incitait les gens à passer au vélo électrique. Voilà, elle est annulée. On notera que suite aux déclarations qui ont été faites il y a pas longtemps par Nicolas Hulot, toujours soi-disant pour des raisons écologiques, par contre les primes pour acheter une voiture se montent en milliers d'euros et elles existent toujours, voire elles redémarrent encore plus. Donc aujourd'hui on a bien compris à travers ce qui est fait, c'est que la voiture, c'est oui, le gouvernement vous aide en donnant de l'argent à acheter une voiture si vous changez de voiture, etc. Par contre le vélo, non. Là c'est clair. Là vous pouvez rentrer chez vous. Et toujours dans les problématiques environnementales liées au transport, à Paris, suite aux deux dernières années qui se sont bien passées, ils relancent la journée sans voiture. Vous savez, historiquement, il y a toujours une journée sans voiture. Donc Paris décale la date, ils prennent pas la date internationale. Ils la font le premier dimanche d'octobre. Donc là, on sera le dimanche 1er octobre. Et l'année dernière, c'était dans le centre de Paris. Là, Anne Hidalgo a annoncé que c'était tout Paris.
Elle s'est fait détester encore.
Mais c'est énorme.
Nous, c'est pas quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais quand même, sur cette affaire, c'est quand même énorme.
Donc elle dit, voilà, tout Paris, il y aura pas de voiture. Alors c'est de 10h à 18h, un truc comme ça, 9h-18h, enfin c'est toute la journée. L'idée, c'est de faire découvrir une ville sans qu'il y ait des transports de voiture. Donc ça change complètement. Si vous avez déjà vu une ville sans voiture, il y a, bon, pas de pollution. On s'en rend pas toujours compte de la pollution. Mais il y a pas de pollution, il y a pas de bruit. Ça c'est énorme. Les rues, on peut se balader au milieu. Enfin, ouais. C'est tranquille. On redécouvre la vie en fait, hein, dans une ville, dans une communauté, quoi. Et alors bien sûr il y a des exceptions, hein, les flics, les pompiers, tout ça, ils ont toujours le droit de rouler, les handicapés aussi, ceux qui déménagent aussi, enfin il y a quand même moyen de si vous avez un gros, enfin si les Parisiens ont un truc à faire, de le faire en demandant une dérogation à la mairie, mais ça limite beaucoup beaucoup la circulation. Et bien sûr elle s'en prend plein la gueule. Et il y a des gens qui se sont mobilisés. Donc il y a l'UDELSIM. L'UDELSIM, c'est l'association qui défend le droit de rouler librement à Paris et de polluer. Ils sont associés avec 40 millions d'automobilistes, hein, et la Ligue de défense des conducteurs. Donc souvent ces mouvements sont soutenus quand même par tout le monde, mais pas mal par l'extrême droite, hein, quand même. On a le seul parti officiellement qui défend le droit de polluer, ça a été l'extrême droite. Même si le PS et tous ces partis-là, ils ont toujours été sympathiques avec ces assos, c'est quand même un truc assez dégueulasse, parce que ces gens, ils disent on veut avoir le droit de polluer. En fait, ils disent pas autre chose. Ils disent on va avoir le droit de polluer. Ils disent pas on veut avoir le droit de se déplacer librement. Sinon, ils seraient pour qu'il y ait du vélo, qu'il y ait des scooters, qu'il y ait de la trottinette. Non, on veut avoir le droit de prendre l'automobile. Et ils défendent l'automobile diesel et essence, celle qui pollue. D'ailleurs, enfin, bon, ce sont des assassins, hein, puisqu'on rappelle, hein, c'est 48 000 morts la pollution en France, plus 5 000 avec les accidents de la route. Grosso modo, si on regarde depuis l'histoire de l'automobile, on rappelle l'automobile a plus tué que les grands massacreurs du siècle dernier, que peuvent être Staline, Hitler et autres. Hein, donc c'est un vrai truc qui tue vraiment beaucoup de gens, et encore aujourd'hui, hein, ça s'améliore pas. Malgré les scandales, on a bien compris que la pollution, elle était toujours. Donc eux, ils ont monté des sites internet, ils essayent de mobiliser les gens, ils incitent, il y a même une page Facebook qui incite à les automobilistes à rouler sur les pistes cyclables, grosso modo à tuer du cycliste. On sait, hein, qu'il y a eu des choses comme ça qui sont passées, des cyclistes sont morts, pas mal de cyclistes sont morts cet été, des cyclistes qui faisaient de la route et qui ont été tués. Et il y a plein de doutes sur le fait que ce ne soient pas des actes volontaires et des assassinats. Donc il y a une vraie cabale contre les gens qui n'utilisent pas la voiture. Et donc voilà, c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est une bonne idée. Alors à Lyon, ce sera ridicule, il n'y aura rien, bien évidemment. Villeurbanne, en général, ils font un peu des choses sur la journée sans voiture. Voilà, on vous en parlera quand ça arrivera.
Mais c'est ça qu'à Paris, il y a eu aussi une grosse pression de la part de la Fashion Week. Vous savez, ce grand moment où il y a des défilés de mode, où en fait, ils ont demandé à Paris de changer les dates parce que ça tombait mal pour que les stars internationales puissent circuler dans les voitures comme elles le souhaitaient. Et Paris a dit, ben non, on va garder notre date. Et voilà, il y a même eu des pressions de ce type-là, quand même.
Voilà, Debray bref, pour terminer, en Angleterre, c'est officiel, le prix de l'éolien offshore, celui qui est posé dans la mer, au kilowattheure, au mégawattheure, c'est 120 livres. C'est 57,5 livres. Donc c'est beaucoup moins cher que le nucléaire qui est annoncé pour 92,50 livres pour la prochaine centrale de Hinkley Point. Donc c'est officiel, les renouvelables sont aujourd'hui moins chers en Angleterre que le nucléaire. Et puis on a une mauvaise nouvelle, ceux qui habitent à Tricastin, faut faire gaffe, la centrale a été arrêtée d'urgence une demande de l'autorité de sûreté nucléaire qui a peur que la digue qui est, parce que la centrale est construite en dessous de la digue qui passe avec de l'eau, et si jamais la digue se rompt, le réacteur risque d'être inondé et de fusionner comme à Fukushima. Donc ça fait un petit peu peur, les EDF va essayer de renforcer la digue. Il nous reste une minute pour annoncer pour faire un petit agenda. Alors samedi à 15h à la librairie La Griffe, c'est le retour des rencontres avec des écrivains ou des auteurs. Donc là, ça s'appelle Les naufragés de Perrache, sur des réfugiés de Lyon. C'est un livre écrit 2012-2013 sur des réfugiés comme on a maintenant, mais voilà, sur ceux de 2012-2013.
Malheureusement, il y en a toujours des réfugiés.
Oui, alors ceux-là, ils venaient plus des Balkans d'ailleurs à cette époque-là. Et il y a un rassemblement aussi samedi de 16 à 18h. Donc sur la place des terreaux pour lutter contre les politiques migratoires, des choses comme ça, et accueillir les réfugiés. Et enfin, deux petites infos très très brèves. La CGA fait sa rentrée, ça sera samedi aussi. À 17h, on discute du code du travail, et à 19h, c'est l'apéro de rentrée de la CGA. Donc c'est sur les pentes de la Croix-Rousse, à la librairie La Plume Noire. Et la semaine d'après sera le 7 octobre, on en reparlera. C'est la CNT qui fait sa rentrée, qui fait son pot de rentrée à 17h. Donc voilà, on peut aller boire des coups sur des lieux militants, c'est sympa.
Ouais, quand je dis que c'est malheureux, c'est qu'évidemment c'est malheureux qu'il y ait encore des réfugiés dans le monde. Hein, parce que sinon, nous, on veut bien continuer à accueillir... les gens.
20h passées de 15 secondes, on a dépassé de 15 secondes, on s'excuse. Et
on laisse la place à la petite cuillère. La semaine prochaine, ciao ciao.